France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En ce lundi 27 janvier, journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, date anniversaire également de la libération des camps, 80 ans, nous recevons l'historien Tal Brutmann, spécialiste des politiques antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fait paraître une nouvelle édition de son ouvrage intitulé Auschwitz, édité une première fois en 2015. Cette année marque effectivement les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'ouverture des camps, dont Auschwitz, le plus grand camp de concentration et d'extermination le plus meurtrier, où 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés, des juifs venus de toute l'Europe. Pourtant, malgré l'ampleur des recherches et des détails dans l'histoire mémorielle, ce camp recèle encore des inconnus. Alors comment Auschwitz est-il devenu le symbole de la politique d'extermination du nazisme? En quoi Auschwitz et ses représentations ont-ils éclipsé par leur gigantisme une grande partie de la réalité historique de la Shoah? Pour en parler, Tal Brutmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et je le disais, vous faites paraître à nouveau cet ouvrage intitulé Auschwitz, c'est aux éditions La Découverte. Vous avez fait paraître également d'autres ouvrages sur le même thème, La logique des bourreaux, c'était en 2015 chez Fayard, un album d'Auschwitz. Nous y reviendrons, merci d'être l'invité ce soir de Questions du Soir.
Quand je suis arrivée à Auschwitz et qu'il y avait cette horreur de bruit dans la gare, ces coups de feu, ces cris, quand on séparait les femmes, les enfants.
Oui, avec les chiens aussi.
Oui, à côté de moi, un homme qui s'est approché, qui a marché à côté de moi. On n'avait pas le droit de parler, surtout ils ont dit ne parlez pas, parce que les nazis tiraient dans le tas. Il m'a dit... Attention, fillette, attention, attention, en polonais, bien sûr. Au bout du quai, tu vois, là-bas, au bout du quai, il y a une sélection. N'oublie pas, à gauche, c'est la vie, à droite, c'est la mort. Alors, tu vas à gauche, tu n'oublies pas. J'ai pris ma mère par la main, j'ai avancé aussi vite que j'ai pu pour que le maximum de femmes puissent m'entendre. J'ai baissé la tête et je disais, allez à gauche. Allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche. Jusqu'au bout, je disais ça.
La voix d'Isabelle Chocot, déportée à Auschwitz avec sa mère en 1944. Elle est une rescapée des camps de concentration et d'extermination nazis. Elle a été championne de France d'échecs en 1956. Elle est décédée en 2023 à Paris. Et Tal Brutmann, je voudrais qu'on commence par les termes, par l'emploi des mots. On lit un peu partout dans la presse la libération des camps nazis dont on commémore les 80 ans. Pourquoi remettez-vous en cause aujourd'hui ce terme-là, celui de libération, et pourquoi les historiens préfèrent-ils celui d'ouverture ou celui de découverte des camps?
Alors c'est pas tant moi qui, je suis pas tout seul.
Les historiens, c'est voilà. Ce que je disais.
Oui, tout à fait. Et par exemple, Annette Jivorka, depuis 30 ans, qui explique que non, c'est pas la libération, puisque la libération induit une volonté de viser un objectif. La libération de la France a été voulue par les armées alliées, par la France libre. En l'occurrence, à une exception près qui n'est pas inintéressant d'évoquer, tous les camps ont été découverts par hasard par les armées alliées à mesure qu'elles s'enfonçaient vers le Troisième Reich et à l'intérieur du Troisième Reich. Auschwitz en est la meilleure illustration. L'armée rouge vient de prendre Cracovie, elle va pénétrer à l'intérieur de l'Allemagne et Auschwitz, à ce moment-là, la ville d'Auschwitz, constitue la pointe orientale de l'Allemagne, c'est la Haute-Silésie. Ils suivent la route qui va de Cracovie, en fait, vers l'intérieur et sur cette route, il y a une ville qui s'appelle Auschwitz et ils tombent sur les camps. Donc je vais faire un aparté très rapide. Le seul camp qui a été pris comme un objectif militaire, c'est le camp de concentration de Varsovie qui avait été installé sur les ruines du ghetto de Varsovie, où 7 à 8 000 prisonniers d'Auschwitz ont été transférés. Et le 5 août 44, au moment du soulèvement de la ville de Varsovie, il y a des unités combattantes de l'armée clandestine polonaise qui le prennent d'assaut pour libérer les derniers prisonniers qui s'y trouvent, environ 250 personnes. C'est les seuls qui ont été libérés dans le cadre d'un objectif militaire. Sinon, tous les autres... Par exemple, à Auschwitz, on a l'armée rouge qui avance, il y a des escarmouches dans la ville d'Auschwitz et alentour, mais ils tombent littéralement sur les camps successivement. Ils tombent sur Monowitz, où se trouvait Primo Levi, puis ils continuent à avancer, ils tombent sur Auschwitz 1, là où il y a le Arbeitsmarktfrei, ils continuent d'avancer, ils tombent sur Birkenau, donc ils les découvrent littéralement. Évidemment que leur arrivée libère totalement les prisonniers, mais les SS étaient partis depuis plus d'une semaine. Donc c'est là où il y a quelque chose de très important. On est dans un moment charnière où les Allemands reculent, mais en même temps, il y a encore des patrouilles qui viennent vers le camp, qui tirent dans le lot. Et l'armée rouge arrive, elle les libère au sens physique du terme, mais pas dans le cadre d'une libération, mais d'une découverte.
Je comprends bien, en vous écoutant, en lisant aussi l'interview que vous avez donnée au journal Le Monde, les problèmes multiples que pose ce terme de libération, notamment quant à l'intentionnalité des alliés ou de l'armée rouge. Mais est-ce que le mot de découverte lui-même ne pose pas aussi un problème? Est-ce qu'il ne laisse pas entendre que les alliés, comme les soviétiques, ignoraient tout de ce système concentrationnaire et de ce système d'extermination?
Alors là, ça dépend à quelle hauteur on se place. Évidemment que les gouvernements alliés, que les états-majors alliés ont des renseignements sur les camps. Ça, c'est une réalité. Mais le soldat de base, ou même les officiers, qu'il s'agisse de l'armée rouge ou des armées britanniques, américaines ou françaises, ils n'ont pas ces informations-là. Donc ça, c'est le premier point. Les soldats qui arrivent sur le terrain découvrent littéralement. Il y avait des anciens combattants de l'armée rouge qui, d'ailleurs, ça peut se retrouver dans les archives audio sur le site de l'INA, qui sont interrogés et qui témoignent du fait qu'ils ont découvert. Littéralement, qu'ils étaient au courant de rien, qu'on leur a pas signé d'objectif. Donc ça, c'est une réalité. Les officiers commandant ces unités ont écrit sur ce sujet en expliquant qu'on leur avait pas assigné l'objectif. Donc non, eux, ils découvrent qu'il y ait des informations par ailleurs qui soient aux mains, on va dire, de ceux qui dirigent. Oui, mais après, ces informations-là, elles permettent pas de savoir ce qui se passe dans les camps. C'est des informations qui parlent du fait qu'on détient des gens, qu'on les maltraite, évidemment. Faut pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les opposants politiques allemands ont énormément publié à l'étranger des témoignages sur les camps en Allemagne. Donc le sujet camp de concentration n'est pas nouveau, mais la réalité concentrationnaire telle qu'elle s'est développée durant la Seconde Guerre mondiale, où elle prend des dimensions jusque-là totalement inconnues, c'est quelque chose qu'on va de fait découvrir. Même s'il y a des informations qui circulent, il y a une vraie découverte. Et d'ailleurs, cette découverte, elle est fixée sur la pellicule, qu'il s'agisse des photos ou des films, qui montrent à quel point ce qui est vu marque, enfin, l'entendement, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on pouvait même imaginer en ayant des informations.
On va revenir évidemment sur ces photographies parce que vous avez énormément travaillé sur ce type d'archives-là, Tal Brüttmann. Mais je voudrais d'abord citer l'introduction de votre livre intitulé Auschwitz et qui reparaît à la découverte. Auschwitz, justement, rarement un nom a incarné l'histoire d'une manière aussi forte. La simple évocation de ce lieu renvoie immédiatement à un ensemble de représentations recouvrant à la fois l'univers concentrationnaire et la Shoah. Bien plus qu'un exemple ou qu'un symbole, Auschwitz est devenu, avec une puissance sans pareille, synonyme de cette histoire, une métonymie, comme l'a souligné Annette Wieworka. Alors, est-ce que cette mémoire, Tal Brüttmann, a justement souffert de la puissance de cette métonymie?
D'une manière brève, oui. Alors, pas uniquement parce que c'est Auschwitz. On peut constater la même chose sur les camps de concentration dans leur ensemble, qui, malgré ce qu'on peut penser, demeure très mal connu jusqu'à aujourd'hui, pour tout un ensemble de raisons. Mais de fait, oui, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais ça a tellement marqué l'entendement au moment de la découverte qu'il y a eu énormément de choses qui n'ont pas pu être comprises, entendues, analysées. Alors, chez les historiens, ça s'est mis en place relativement rapidement, et il suffit juste de rappeler quelques grandes avancées, mais Raoul Hilberg, dès 61, il explique un certain nombre de choses auxquelles se réfèrent jusqu'à aujourd'hui les historiens, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais la puissance de ce qui a été découvert, de ces images qu'on évoque, cette puissance-là est telle que les opinions publiques jusqu'à aujourd'hui demeurent marquées par ces images en pensant que on connaît parce qu'on connaît ces images. Et du coup, il y a une forme de paralysie de la connaissance, parce que ces images sont là, elles sont centrales. Et à plus forte raison, Auschwitz, qui incarne énormément de choses, le système concentrationnaire, la Shoah et énormément d'autres éléments, c'est là, c'est central. Auschwitz est devenu central depuis 40 ou 50 ans chez nous. Ça n'a pas toujours été le cas avant. Il y a d'autres camps qui ont occupé une place mémorielle très importante. Buchenwald, Neuengamme, qui a totalement été oublié. Dachau, Mauthausen. Et ce qui est intéressant, il suffit que je cite les noms de camps pour que les auditeurs immédiatement sachent de quoi je parle. Alors qu'il y a plein de lieux très importants dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale dont personne n'a jamais entendu parler. Si je vous parle de Malitrostinets, sans faire injure à qui que ce soit, personne ne connaît. Et pourtant, c'est un site d'assassinat très important des Juifs d'Europe, mais qui se trouve à l'Est, qui a été peu étudié, dont on sait peu de choses in fine. Et voilà, c'est, il y a plus de morts à Mali-Trostinets que à Dachau ou à Mauthausen, ce qui montre l'importance mémorielle qu'ont les camps de concentration.
Si je repars justement de ce que vous disiez et si je tente de décliner les raisons pour lesquelles la mémoire d'Auschwitz a participé à brouiller la mémoire de la Shoah dans son ensemble, je voudrais qu'on commence par ces images que vous évoquez justement. Pourquoi les images ne montrent pas la Shoah dans sa réalité et dans sa vérité? Ces images de, justement, du camp d'Auschwitz.
Alors, de quelles images parle-t-on? De celles qui suivent la libération ou celles qui sont prises par les SS? C'est deux registres totalement différents.
Celles justement qui suivent la libération et qui montrent justement une part seulement de l'horreur et de la réalité.
Mais parce que il faut vraiment comprendre, et ça vaut jusqu'à aujourd'hui, si vous allez visiter Auschwitz, à peu près tout un chacun est marqué par l'immensité du camp de Birkenau, qui de fait a été le plus grand de tous les camps de concentration, prévu pour plus de 150 000 détenus. 170 hectares, c'est colossal, ça s'étend à perte de vue.
Vous l'écrivez, hein, c'est un gigantisme.
C'est un véritable gigantisme. Mais c'est là où il y a quelque chose de très important, et qui est difficile à entendre intellectuellement. C'est que plus c'est grand, plus il y avait de gens détenus, dans des conditions évidemment effroyables, mais il y a des gens détenus. Les chambres à gaz, qui sont au nombre de 6 à Birkenau, il y en a une 7e qui se trouvait à côté d'Auschwitz. Les chambres à gaz, ce sont des endroits ridiculement petits, simplement parce qu'il n'y a pas de détention. Et ce sont les endroits les plus meurtriers. Donc d'un côté, vous avez un site qui a accueilli, en réalité, 120 000 personnes à son acmé, même s'il était prévu pour 150 000, 120 000 personnes. Et de l'autre côté, vous avez un site où plus de 900 000 personnes ont été assassinées dès leur arrivée, et ce sont 6 têtes d'épingle. Et là, on a quelque chose qui est très simple. L'immensité du camp écrase la petitesse des chambres à gaz. Et donc, ce qui va nous marquer, c'est ce qui est immense, où les gens ont été détenus, alors que les lieux qui sont ceux qui marquent la véritable dimension assassine d'Auschwitz, ils disparaissent totalement.
L'autre raison pour laquelle, j'allais dire, les spécificités d'Auschwitz, comme vous l'écrivez, sont devenues des généralités, brouillant très largement la compréhension historique, c'est que Auschwitz est une anomalie dans le fonctionnement des camps de concentration. Pourquoi, là encore ?
Alors, c'est une double anomalie, vous avez totalement raison, dans le fonctionnement des camps de concentration et des centres de mise à mort. À partir du déclenchement de la solution finale, c'est très simple, les Juifs vont vers des centres de mise à mort. Treblinka, Sobibor, Belzec, Mali-Trostinets, que j'ai évoqué, qui ne se confondent jamais avec le système concentrationnaire dont les Juifs sont exclus quasiment depuis le début de l'histoire. À part sur la période 33-34, quand les nazis arrivent au pouvoir, ensuite les Juifs ne sont plus destinés aux camps de concentration, les politiques antisémites se déroulent ailleurs. La seule exception à cela, c'est Auschwitz. Auschwitz est le seul endroit où vous avez un camp de concentration et un centre de mise à mort qui s'entrecroisent. Tout simplement parce qu'il y a un élément fondamental qui est évoqué par les historiens depuis des décennies. Le camp de concentration d'Auschwitz est amarré à une ville qui s'appelle aussi Auschwitz en allemand, Oświęcim en polonais. Et il va y avoir dès le départ une interaction entre le camp et la ville. Et des besoins de main-d'œuvre de plus en plus importants au fil des mois et des années, mais vraiment d'une manière exponentielle, puisque vous avez la fine fleur des industries allemandes qui viennent s'installer, IG Farben, qui est un immense conglomérat pétrochimique, dont vient BASF par exemple aujourd'hui, Siemens, Krupp. Il faut de la main-d'œuvre en permanence. Et le système concentrationnaire, à ce moment-là, n'en dégage pas assez. Et en même temps, vous avez ce lieu d'assassinat des Juifs qui est développé pour d'autres raisons à côté du camp de concentration de Birkenau, qui ne se confond pas avec. Et les SS vont décider d'une chose très particulière. Ils vont inventer ce qu'ils appellent la sélection. Parmi les convois de Juifs qui arrivent là pour être assassinés, qui vont vers les chambres à gaz, on va retirer littéralement de la file un petit nombre d'hommes juifs, essentiellement, et dans une moindre mesure de femmes, puisque les SS estiment qu'une femme, ça travaille moins bien qu'un homme, donc ils privilégient la main-d'œuvre masculine. On va retirer de ces files qui vont vers les chambres à gaz un petit pourcentage de Juifs qu'on va littéralement injecter dans le camp de concentration. C'est le seul endroit où ça se produit, dans toute l'Europe allemande. Et les Juifs, qui sont temporairement épargnés de l'assassinat, ne sont pas censés sortir d'Auschwitz. Ils sont censés, à plus ou moins brève échéance, mourir dans le camp. C'est le seul endroit où on détient des Juifs en masse pendant la Seconde Guerre mondiale. La suite des événements va faire, à partir de l'été 44, et pour des modifications dans les politiques antisémites d'abord, puisque les SS vont décider qu'on va utiliser des Juifs pour produire de l'armement dans le cadre d'un certain nombre d'opérations dont je vous passe les noms, mais notamment le Jägerstab, qui est une production d'avions de chasse, ils vont décider de que ça n'est plus un terminus pour les Juifs et qu'on va les envoyer vers d'autres sites de production, autrement dit des camps de concentration. Ça, c'est à l'été 44. Et puis, dans les semaines qui précèdent l'arrivée de l'armée rouge, ils évacuent l'ensemble des prisonniers, dont plusieurs dizaines de milliers de Juifs, qui vont littéralement métastaser dans le système concentrationnaire. Et c'est de là que va naître une énorme incompréhension à la libération des camps ou à la découverte des camps au printemps 1945. C'est que les Alliés vont découvrir parmi les prisonniers des camps des Juifs. Et on va se dire, les Allemands ont envoyé les Juifs vers les camps de concentration pour les y faire mourir. Alors que c'est exactement le contraire. Ceux qu'on a retrouvés morts ou vivants, ce sont ceux qui ont échappé à l'assassinat immédiat. Ceux qui ont échappé aux fusillades à l'Est, ceux qui ont échappé aux chambres à gaz, ceux qui ont échappé aux fosses.
Il faut rappeler d'ailleurs que 90% des Juifs qui arrivaient à Auschwitz mouraient dès le premier jour de leur arrivée.
Voire même dès les premières heures. C'est le temps qu'il y ait la sélection qui prend 3 ou 4 heures en termes d'organisation, puis ensuite d'être acheminé vers une des chambres à gaz, ça prend 1 ou 2 heures, et ensuite le gazage a lieu très rapidement. En gros, en moins de 10 heures, ceux qui sont arrivés sont assassinés.
Et pour montrer justement la force du brouillage de cette métonymie, vous écrivez à un tel Brutmann, il n'est pas anodin de constater que dans un musée comme celui de la Grande Guerre patriotique à Kiev, Auschwitz se voit accorder une place centrale, alors que les victimes juives d'Ukraine et les prisonniers de guerre de l'armée rouge sont mortes en masse hors de ce site. Fin de citation. C'est presque une métonymie qui vient effacer parfois la mémoire locale, donc.
C'est ça qui est impressionnant, c'est que si vous regardez, si vous allez alors à Kiev, évidemment, si vous allez à Moscou, ce qui est plus compliqué de nos jours, c'est la même chose, ou si vous allez à Washington, c'est toujours à Auschwitz qui est central. Et une des raisons pour lesquelles Auschwitz a occupé une telle centralité, c'est pas uniquement les raisons qu'on a évoquées, mais c'est qu'il y a également tout un ensemble de photographies qui datent de la période de gestion par les SS du camp, qui nous sont parvenues. Et qui donc ont ancré la mémoire, qui participent, non seulement il y a toutes ces exceptions qu'on vient d'évoquer, mais en plus il y a des photos. Et des photos qui ont très largement pénétré nos représentations, qui font partie de ce qu'on appelle les photos iconiques de la Shoah.
Dans les manuels scolaires, au cinéma, dans la littérature, absolument partout.
Dans la presse, reproduites au cinéma, enfin voilà, elles sont de partout. Et donc, ces photos sont devenues l'incarnation de la Shoah, autrement dit, Auschwitz est devenue la Shoah quasiment dans son intégralité. Et quand il faut évoquer la Shoah, on va pas évoquer Babi Yar quand on est à Kiev, on va évoquer Auschwitz qui se trouve à plus de 1500 km de là.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Marceline Lory dans Events. Elle raconte son arrivée à Auschwitz.
On nous met nus dans une des douches et l'eau qui coule est froide, on n'a pas de savon, on n'a pas de serviette pour on nous a pris déjà tous nos vêtements. Et il y a un tas de chiffons, on peut dire, qui sont des vêtements déjà utilisés par je ne sais pas combien de mortes. Et on demande où sont les gens qui sont partis en camion. Et il y a des vieilles prisonnières qui sont chargées de nous encadrer et qui nous disent, ben regardez, la fumée là, elles sont déjà au commando du ciel. Arrive une délégation de femmes SS avec des chiens. Il y en a une qui s'appelle Drexler, je n'oublierai jamais celle-là. Et qui nous disent, il y a des couturières parmi vous, il y a des musiciennes parmi vous. Et il y en a une petite qui lève le doigt, qui dit, moi, j'étais danseuse à l'opéra. Et la chef lui dit, eh ben danse maintenant.
Marceline Lory dans Events, qui est devenue scénariste, réalisatrice, productrice, écrivaine. Elle est décédée le 18 septembre 2018 à Paris. Tal Brutmann, est-ce qu'il y a une mémoire singulière, spécifique des femmes dans ce camp d'Auschwitz?
Alors, je serais incliné à vous dire évidemment. Évidemment, à plus forte raison que parmi toutes les spécificités d'Auschwitz, il y en a une qui fait que c'est le premier camp de concentration mixte. Jusqu'au début de l'année 1942, les camps de concentration sont exclusivement masculins, à l'exception de Ravensbrück, qui est le camp de concentration pour les femmes. Et pour tout un ensemble de raisons qui sont propres au développement d'Auschwitz, les SS vont acheminer là des femmes juives, théoriquement de toute l'Europe. Les premières arrivent de Slovaquie, suivies ensuite de France. Et on va voir d'abord une particularité, c'est qu'on va avoir des femmes détenues au même endroit que les hommes, dans Auschwitz, hein, où il y a juste des barbelés qui sont tirés, qui coupent le camp en deux. Et ensuite, le premier secteur de Birkenau, qui s'appelle le B1, va devenir le camp des femmes, exclusivement utilisé pour la détention des femmes. Donc déjà, il y a cette réalité-là. En plus, Et là, ça dépend où on se place si on prend les femmes juives. Il y a énormément de choses très importantes. Puisque quand les convois arrivent, les SS organisent la sélection, autrement dit, qui va vivre ou mourir. Mais les filles sont organisées, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes et les enfants. Ce sont les femmes qui restent avec leurs enfants. Ce qui fait que les mères qui refusent de lâcher leurs enfants partent immédiatement à la chambre à gaz. Peu importe qu'elles soient en âge d'aller travailler au camp, une mère qui reste avec son enfant est condamnée d'office. Alors que pour les pères, la question ne se pose pas, puisque les pères ne restent pas avec les enfants. Donc déjà, ça fait une différence fondamentale dès l'arrivée pour les femmes juives. Et ensuite, dans l'expérience concentrationnaire, évidemment que selon le genre, il y a des différences très importantes, mais pas forcément celles qu'on se représente de prime abord. Le travail de force, les femmes le réalisent aussi. Si on prend, vous avez cité Marceline, elle est dans le même convoi que Simone Veil, qui a été déportée avec sa mère et sa sœur, que Ginette Kolinka, qui est toujours en vie. Et Ginette, c'est le cas aussi de Simone Veil. Marceline, elle ne l'a jamais dit, donc je ne peux pas être sûr de ça. Elles ont posé des rails, puisque le deuxième pied d'arrivée des Juifs qui va être prolongé dans Birkenau, les Allemands vont utiliser de la main-d'œuvre dès qu'elle arrive, et c'est le cas de ce convoi qui arrive à la mi-avril 1944. Ginette Kolinka, qui est un petit bout de femme, elle a été chargée de poser des rails. Donc il faut imaginer ce que c'est les travaux de force, les femmes sont logées à la même enseigne que les hommes. Par contre, il y a des choses qui, une fois évoquées, deviennent évidentes, mais en particulier pour les femmes, l'arrivée, l'enregistrement, celles qui deviennent prisonnières, c'est un énorme choc parce qu'elles doivent se déshabiller. Et là, je crois que la plupart des rescapés racontent la même chose. Ginette, on parle systématiquement, Ginette Kolinka, pour la première fois de sa vie, elle a vu d'autres personnes nues. Et pour la première fois de sa vie, des gens l'ont vue nue. La nudité, à l'époque, était quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec ce que nous, on connaît. Autrement dit, ça constitue un premier choc initial. Chez les hommes, les témoignages s'appesantissent moins là-dessus. Alors, sans doute pour tout un ensemble de raisons, mais les femmes, elles reviennent systématiquement sur cette nudité qui leur est imposée devant tout le monde, y compris des hommes qui sont là et qui observent des SS, sur le fait qu'elles ont été rasées, et pas uniquement leur tête, mais l'ensemble du corps. Donc tout ça, d'emblée, constitue une violence qui est immédiatement ressentie. Non pas que les hommes ne subissent pas cette même violence, mais ils la ressentent sans doute d'une manière différente.
Que dire, Tal Brutmann, dans le même temps, de la mémoire tzigane, les tziganes qui reçoivent à Auschwitz un traitement à part?
Alors les tziganes constituent un cas d'école, déjà d'un point de vue mémoriel, puisque ils sont très 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 souvent oubliés quand il s'agit d'évoquer le sort qu'ils ont subi de la part du Troisième Reich, y compris par les historiens. C'est ça qui est assez marquant. Il y a plein de publications qui traitent des violences de masse durant la Seconde Guerre mondiale qui omettent totalement le sort des tziganes, ce qui dit des choses.
Comment est-ce que vous l'expliquez?
Je ne l'explique pas. On peut le comprendre pour des mauvaises raisons. Les tziganes ont un mode de vie qui est considéré comme n'étant pas conforme à nos sociétés. Ce sont des nomades essentiellement dans une Europe qui est sédentaire. Ils refusent les règles imposées par les États dans lesquels ils vivent, etc., etc. Donc ils sont laissés à la marge, pas seulement des sociétés, mais aussi souvent de l'histoire. Il y a peu d'historiens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, il y en a quelques-uns qui travaillent sur le sujet. Même chose en Europe, il y a peu d'historiens qui travaillent sur le sort des tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Les livres se comptent littéralement sur les doigts des deux mains. Donc ça montre qu'il y a encore énormément de choses à explorer. Et,
non, je vous en prie,
continuez. Et juste pour finir sur les tziganes, à Auschwitz, ils ont un sort très particulier qui ne peut pas être confondu avec celui des Juifs. Entendu, il faut vraiment comprendre que ce qui se déroule à Auschwitz, pour chaque catégorie, relève de politiques publiques, au sens premier du terme. Ce sont des politiques décidées par un État, l'État nazi, appliquées par quelque chose qui ressemble à une administration, même si elle est très particulière, l'ASS, en l'occurrence l'ASS des camps. Les tziganes sont censés, sur décision d'Himmler, qui l'a annoncé à Rudolf Höss, le commandant du camp, fin 42, ils sont censés être regroupés dans un des camps qui constitue Birkenau, parce que Himmler a dit qu'il avait un projet pour eux. Il y a 23 000 tziganes de toute l'Europe, pendant qu'on en massacre un peu partout par ailleurs, qui vont être concentrés là, au sens premier du terme. Sauf que ce qui va se passer est très particulier. Plus jamais Himmler ne va dire ce qu'il préparait pour les tziganes. Et donc, ils vont être littéralement laissés à l'abandon dans des conditions qui sont effroyables et qui n'ont pas d'équivalent. Ils vont mourir en masse dans le camp et les 3 à 4 000 derniers vont être gazés dans la nuit du 2 ou 3 août 1944.
Tal Brudman, d'un mot, au mémorial de la Shoah, vous êtes aujourd'hui à la tête, ou en tout cas vous participez à une exposition. Quel est son titre? Que peut-on y voir?
Alors, je suis le commissaire de cette exposition. C'est une exposition qui est consacrée à l'analyse des photos qui proviennent d'un ensemble qui s'appelle l'album d'Auschwitz, qui montre l'arrivée des Juifs de Hongrie. Et un travail que j'ai fait avec deux historiens allemands qui a donné lieu à cet ouvrage que vous avez cité. Et là, on m'a demandé de réfléchir à une exposition qui prolonge ce qu'on a fait dans le livre, mais c'est pas le livre, c'est un prolongement de cela, et c'est vraiment une réflexion en fait très large qui dépasse Auschwitz, qui dépasse la Seconde Guerre mondiale. C'est une réflexion sur notre rapport à l'image, pour faire simple.
Merci beaucoup, Tal Brudman. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Auschwitz, tout simplement, et je le recommande très très vivement. Il reparaît aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu à Question du Soir.
Merci à vous.